Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Nous entendons très souvent les chrétiens parler d'amour, de l'amour envers Dieu ou de l'amour du prochain. Ce mot « amour » alimente régulièrement les conversations et les sermons. Il y a de par le monde des personnes exceptionnelles qui consacrent une grande partie de leur vie à se dévouer pour leur prochain. Elles s'occupent de personnes âgées, d'handicapés, de malades, et cela bénévolement, simplement pour l'amour d'autrui. Est-ce là le véritable amour? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est le véritable amour? La Bible nous dit que l'amour est la première des 9 qualités du fruit de l'esprit, mentionnées par l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. L'amour véritable s'implante donc dans le cœur du chrétien lorsqu'il reçoit l'Esprit de Dieu. La puissance et la pensée qui émanent de ce Dieu d'amour, car tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit est imprégné d'un amour illimité. L'Esprit de Dieu est semblable à des fleuves d'eau vive qui coulent d'une manière incessante dans le véritable disciple du Christ, dans celui qui s'efforce de vivre comme il a vécu, de marcher comme il a marché lui-même quand il était sur cette terre. Ces fleuves d'eau vive, qui contiennent toutes les qualités du fruit de l'Esprit, émanent de Dieu, régénèrent le véritable chrétien pour ensuite se répandre autour de lui avant de retourner vers Dieu. C'est un flot continu, comme Jésus lui-même nous le déclare en disant « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront, se répandront, de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore répandu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans ces versets, Jésus fait référence à un passage de l'Ancien Testament où il est écrit dans le livre d'Ésaïe « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasira ton âme, autrement dit ton être, ta vie, dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » La Bible définit l'amour. Malheureusement, peu de personnes connaissent cette définition qui est trop rarement mentionnée, car elle est contraire à l'enseignement courant. Cette définition est donnée par l'apôtre Jean. Voyons ce qu'il a écrit plus de 60 ans après la mort de Jésus. « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, Jean nous dit clairement que si nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, si nous vivons en conformité avec ceux-ci, alors nous pouvons avoir la certitude que nous aimons ses enfants, c'est-à-dire que nous avons de l'amour pour autrui. Pour qu'il n'y ait aucun doute dans notre esprit, l'apôtre Jean poursuit en écrivant « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et ces commandements ne sont pas pénibles. Avez-vous déjà eu l'occasion d'entendre un enseignement religieux vous recommandant d'observer les commandements de Dieu? De les observer sans rien y changer, sans rien en modifier, sans les altérer, tels que Dieu les a établis et enseignés. Connaissez-vous ces commandements qui sont éternels? Savez-vous où les trouver dans votre Bible? Les avez-vous déjà lus? Vous y conformez-vous? Si vous n'observez pas chacun de ces 10 commandements, alors vous ne pouvez pas connaître cet amour de Dieu, ce véritable amour qui émane de Dieu. Jean a écrit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Cette déclaration est claire, précise. Ne vous basant que sur cette petite phrase, vous devez savoir si oui ou non, l'amour de Dieu existe véritablement en vous, ou s'il s'agit d'un amour différent. Pourtant, me direz-vous, le Christ n'est-il pas venu pour abolir la loi? Nombreux sont ceux qui affirment cela, mais c'est faux. Lisons les paroles prononcées par Jésus lui-même, et vous déciderez ensuite s'il est venu sur terre pour abolir la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Dans ce passage, le mot « accomplir » est traduit du grec « plérou », qui a le sens de compléter, de perfectionner, d'accomplir. Le Christ nous donne un exemple de ce perfectionnement de la loi dans son sermon sur la montagne, où il dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. » Nous voyons dans ce passage que Jésus amplifie la loi. Il la complète en ajoutant à la lettre de la loi, qui est son côté physique, le côté spirituel. Non seulement l'adultère est un acte physique, mais il est aussi le résultat d'une pensée par la simple convoitise. Auparavant, l'adultère était la transgression du septième commandement. Mais depuis la venue de Jésus sur terre, il est également la conséquence de la transgression du dixième commandement qui traite de la convoitise. Voilà ce que le Christ est venu enseigner. Je vous conseille de lire et de méditer le sermon sur la montagne, au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Non, la loi est loin d'avoir été abolie. Christ l'a complétée, magnifiée. L'appliquons-nous non seulement selon la lettre, mais aussi selon l'esprit? L'apôtre Jean écrit encore « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Celui qui dit « Je l'ai connu » ou « Je suis son disciple » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. L'apôtre Jean exprime là un jugement sévère mais sans appel. Lors d'une émission précédente, je vous ai expliqué que celui qui a rappelé au peuple les 10 commandements du haut du mont Sinaï, l'Éternel de l'Ancien Testament, est celui qui allait devenir notre Sauveur, Jésus le Christ. Par conséquent, les commandements dont il est question ici sont ceux qui figurent dans Exode 20 et Deutéronome 5, ces mêmes commandements dont il est question dans toute la Bible. Quelques heures avant son arrestation, Jésus a confirmé que « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurez-vous dans l'amour de Christ? Demeurez-vous dans l'amour du Père comme le Christ y est demeuré lui-même? Voici un bon sujet de méditation, si vous êtes concerné par votre Père céleste. Vous ne pouvez affirmer que vous demeurez dans l'amour de Christ que si vous vous soumettez à la volonté de Dieu, si vous observez sans le moindre compromis tous ces commandements qui sont la base même de la loi. Certaines personnes affirment que le Christ est venu apporter de nouveaux commandements qui remplaceraient les anciens. Mais relisez les 10 commandements, et vous constaterez que les 4 premiers concernent nos rapports personnels avec Dieu. Les 6 commandements suivants décrivent la façon dont nous devons nous comporter envers notre prochain et l'amour que nous devons lui témoigner. Vous pensez peut-être que vous ne vivez pas en contradiction avec les 10 commandements, puisque vous acceptez et reconnaissez que vous devez honorer vos parents, que vous ne tuez pas et ne volez pas. Mais observez-vous le quatrième commandement qui traite du jour du repos, qui n'est pas le dimanche? Si votre réponse est négative, alors, contrairement à ce que recommande l'apôtre Jean, vous ne marchez pas comme le Christ a marché. Vous ne vivez pas comme il a vécu. Jésus a encore déclaré, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. » Le Christ a-t-il reporté le repos du septième jour, prévu dès la création de l'homme, au dimanche qui est le premier jour de la semaine? La réponse est non. Ce repos a-t-il été fait pour le juif seulement? Non, absolument pas. Il a été institué pour l'homme, juste après la création d'Adam. Le Christ a observé la Pâque, et non pas les Pâques. Il a observé les autres fêtes annuelles, comme la fête des tabernacles et le dernier grand jour, nous laissant ainsi un exemple que nous devons suivre. Nombreux parmi ceux qui affirment être chrétiens sont convaincus qu'il leur suffit d'accepter Jésus comme sauveur, de professer son nom et de croire en lui. Des millions de gens sincères croient en Jésus, mais ils ignorent totalement son message et croient qu'il est venu abolir la loi, comme cela leur a été enseigné. Je vous conseille donc de vérifier les enseignements que vous avez reçus. Prenez votre Bible en main et découvrez ce que Jésus a déclaré. Trop de gens font passer notre roi à venir, notre sauveur pour un menteur. Ne soyez pas complices de ce blasphème. Je vous en ai dit assez ce matin pour que vous déterminiez si vous avez en vous le véritable amour qui vient de Dieu. N'oubliez pas que l'apôtre Jean a écrit « L'amour de Dieu consiste à observer ses commandements. » La prochaine fois que vous entendrez parler de l'amour chrétien, souvenez-vous de ce verset.